Donc, Yviel, bonjour.
Bonjour.
Vous publiez article 353 du Code pénal aux éditions de Minuit. Ma première question, elle est toute simple, mais à chaque fois, ça m'intrigue toujours, ça me passionne. Pour vous, d'où vient ce livre?
C'est un mélange entre une image et une voix, la voix du narrateur, c'est-à-dire une voix, je dirais presque une humeur sans doute un peu fatiguée, peut-être un peu mélancolique, mais elle s'est assez vite confondue en effet avec une image, c'est-à-dire la rade de Brest. Peut-être dans l'idée de rade, quelque chose où l'endroit où c'est pas l'océan, c'est-à-dire c'est l'endroit un peu fermé, presque un peu vaseux, avec des lumières qui tirent entre le gris et le vert, voyez. Je crois que c'est. Alors tout ça, c'est plus de l'atmosphère que de l'image, en fait. Voilà. Je crois que c'est une atmosphère.
Moi, je pensais, je me disais que ça pouvait être une image, en tout cas une scène très forte, qui est celle d'ouverture, qui est cet homme poussé à la mer. Il y a deux hommes sur un bateau. L'un pousse l'autre, qui évidemment va se noyer, et le deuxième homme va se retrouver très vite devant son juge. Comment cette entame de livre vous vient?
Oui, ben, c'est-à-dire qu'une fois accumulé, en effet, on va dire des notes plutôt paysagères, assez vite est venue l'idée de ce combat un peu de corps à corps entre ces deux hommes, à savoir cette première figure que je ressentais, qui était cet homme un peu fatigué, un peu floué, et puis en face, la figure de la force, qui allait devenir assez vite un escroc. Mais je ne savais pas tout ça à ce moment-là. Et. À vrai dire, j'ai très vite écrit cette première scène de combat et de noyade. Et après, j'ai hésité. Je me suis dit, est-ce que je la mets au début, est-ce que je la mets plus tard? Mais elle est au fond restée au début, mais parce qu'elle a été écrite au début. Et c'était logique qu'elle ouvre les débats avant même que je sache tout de ce qu'allait se passer dans le livre.
Ça me
Oui, mais moi
fascine
aussi, je ne
toujours.
comprends pas. J'écris des scènes sans forcément savoir encore où elles vont. Et puis, peu à peu, bon, ben, je les laisse de côté. Et puis, je retrouve autre chose. Et puis. Petit à petit, je colle les morceaux et puis jusqu'à ce que ça trouve une ligne claire qui fait que le roman puisse dévaler la pente, si possible, de manière assez fluide.
Alors on va revenir sur tous ces points que vous venez d'évoquer, mais donc tout le livre, c'est ce face-à-face entre en quelque sorte le juge et l'assassin. Ce dispositif-là, il s'est imposé d'emblée aussi pour vous. Il est venu spontanément après cette scène d'ouverture.
Assez vite, parce que je crois que ça fait 20 ans que je me suis dit que ce serait beau de faire un livre qui se passerait dans le bureau d'un juge. Voilà. Alors, pendant longtemps, je l'ai pas fait, et donc je crois que là, c'est venu assez naturellement, et c'était très important parce que c'est ce qui aimante la parole du coupable au fond. Et là aussi, je crois qu'il pourrait pas tout seul dans son coin faire un récit comme celui-là, recomposer tout la suite des événements. C'est comme s'il se les expliquait à lui-même, mais le fait d'avoir une figure une figure en plus de la loi, et ça, pour moi, ça a beaucoup aidé à construire le livre. Donc, j'en ai eu besoin, bien sûr, dès le début. Et puis, c'est ce qu'on appelle au fond une sorte de récit cadre. C'est-à-dire que pour le lecteur, c'est aussi un endroit dans lequel il est posé. Il comprend assez vite qu'il ne va pas forcément en sortir au bout de 30 pages du bureau du juge et que tout va se passer là pour essayer de comprendre justement ce qui s'est passé.
Alors, on pense, enfin, je pense que je ne suis pas le seul, inévitablement, nous vient, d'autant qu'on sait, on l'a souvent dit, que vous avez une écriture, des constructions très cinématographiques, et on ne peut pas s'empêcher de penser à garde à vue. Est-ce que, bon, évidemment, dans un contexte, une histoire qui n'a rien à voir, mais est-ce que vous, c'est une référence que vous aviez en tête, ou même peut-être une référence qui vous contrariait, enfin, qu'il fallait oublier pour aller au bout de votre projet?
Non, parce que pour tout vous avouer, j'ai vu Garde à vue après avoir écrit le livre.
C'est pas vrai.
Mais oui,
Mais vous connaissiez l'existence du film quand
Mais
même.
non.
Ah oui,
C'est dingue,
donc
hein.
vous étiez vierge de
Mais
ce
oui, et
film.
alors,
C'est ça qui est
bon,
formidable.
quelqu'un m'a dit, après avoir lu le livre, avant même sa publication, mais donc parmi les premiers lecteurs, m'a dit, ça fait quand même un peu penser à Garde à vue de Claude, c'est Claude Miller, hein, c'est ça,
Oui,
hein.
exactement. Avec
Et
Michel
donc,
Serrault et
voilà,
Lino
et Lino
Ventura.
Ventura. Je me suis empressé de le regarder, et en effet, ouais, il y a beaucoup de points communs. Bon, c'est un commissaire, lui,
Oui,
c'est pas un juge.
ça n'est pas le
Mais
juge.
il y a cette image qui reste du film aussi, en effet, qui peut-être resterait, je ne connais pas encore ce qui va se passer dans le cerveau des lecteurs, mais ce face-à-face, ce côté un peu huis clos, ce rapport de force et comme deux charismes qui se rencontrent et qui essayent de s'annuler l'un l'autre. Enfin, c'est peut-être encore plus ça dans Garde à vue de Claude Miller, qui est vraiment un huis clos à l'intérieur du commissariat. Alors que dans le livre, il y a cette. Il y a cette situation, mais après, elle ouvre quand même un récit qui, lui, se passe évidemment en dehors du bureau.
Donc, livre à la première personne, la voix de Martial, qui donc en flashback va raconter ce qui l'a amené à ce geste, à commettre ce meurtre. Comment aller justement trouver, lui donner son identité, trouver sa mélodie, j'allais dire, sa sonorité?
Mais en fait, assez vite, ça c'est. Pour moi, c'est un peu nouveau. C'est un personnage qui s'est ancré très vite dans une réalité que je peux, pour une fois, qualifier de presque sociale et historique, c'est-à-dire que ça se passe dans les années 90, et que ce type, ça je l'ai su assez vite aussi, est un ancien ouvrier de l'arsenal de Brest, qui à l'époque employait des milliers et des milliers de personnes. Donc c'est ce moment-là aussi où quelque chose se vide, quelque chose se défait de paysages qu'on a connus pendant presque un siècle de l'industrie et tout ça. Et donc j'ai très vite associé ce que j'appelais l'humeur tout à l'heure du personnage, sa fatigue, sa mélancolie, à la défection aussi de l'industrie ou à celle de comment des villes, par exemple comme Brest, mais au fond qui sont très symptomatiques de l'ensemble j'allais dire de la France, mais enfin on pourrait parler de ça presque dans le monde entier, en tout cas dans l'Occident. Moi j'essaye pas d'en faire quelque chose de précis et surtout pas de faire une analyse sociologique ou politique de l'affaire, mais là encore ça crée une tonalité qui est celle d'un monde qui s'effrite et dans lequel des personnes comme ça essayent de surnager, mais auquel on a finalement peu à peu enlevé beaucoup de choses. Alors voilà comment aussi, vous me parliez de mélodie, il y a une musique de ça. Une musique sans doute un peu triste, mais il y a ça. Enfin, c'est comme ça que moi je le ressens dans l'écriture. Donc assez vite, j'ai aussi réussi à mettre en scène des éléments plutôt de description de ces endroits qui sont un petit peu désaffectés, au fond.
Mais pourquoi la Bretagne, toujours? Cette rade de
Toujours,
Brest.
toujours. Ben, j'y ai grandi et
Ce n'est
puis.
pas un reproche, hein,
Non,
mais c'est une
mais je ne sais pas comment je
curiosité.
dois le prendre.
C'est une curiosité.
C'est fondamentalement le territoire qui, quand je pense à la fiction, c'est dans lequel j'arrive à déposer. J'essaye des fois d'aller ailleurs, j'ai même essayé une ou deux fois d'écrire des livres qui se passent ailleurs, mais j'y reviens indéfectiblement, parce que je crois, parce que c'est mon enfance et que, comme disait Proust, il n'y a pas besoin d'avoir vécu longtemps pour écrire des livres, hein, il suffit d'avoir vécu jusqu'à 12 ans et puis après, il suffit d'écrire.
Ce Martial, voilà, il est floué par cet escroc qui promet un immense projet immobilier, créer une espèce de Saint-Tropez comme ça breton. Et donc Martial va lui donner la totalité des indemnités qu'il a touchées après son départ de l'Arsenal. C'est encore l'époque du franc,
Ah bah oui.
400 000, hein, c'est ça,
Oui.
francs. Et donc très vite, il comprend qu'il a été escroqué. Et pourtant, il ne réagit pas, et on a du mal à le comprendre. Et pourquoi cette espèce de défaitisme chez Martial, qu'il en est conscient lui-même d'ailleurs, page 104, il y a une scène assez forte où l'escroc lui dit, enfin quand même, Martial, je ne vous ai pas mis sur la paille, alors que si, il l'a mis sur
Oui.
la paille, et pourtant il répond non. Et lui-même se dit, mais bon sang, pourquoi je lui dis non, alors que la vérité, c'est qu'il m'a mis sur la paille.
Mais voyez, ce que ne sait pas le personnage de Martial, je dois dire que je ne le sais pas beaucoup plus. C'est-à-dire qu'une partie du livre repose sur cette façon dont il essaye de comprendre lui-même sa propre passivité. Après, peut-être que si j'étais psychologue, ou je pourrais vous répondre plus précisément, mais moi, ce qui m'a intéressé, c'était de fouiller ces moments de l'existence, mais qu'on connaît tous au fond, où on est dans des situations où on ne fait pas ce qu'on devrait faire, où on ne dit pas ce qu'on devrait dire, alors soit par intimidation, par frilosité ou par. Alors là, dans ce livre-là, bon, ce qui se passe pour lui, plus concrètement, c'est que pendant longtemps, il espère quand même récupérer ses billes, et donc il y croit ou il a envie de se faire croire qu'il y croit, parce que s'il se fâche, pour lui, c'est comme si c'était perdu complètement. Donc c'est ça les engrenages des gens escroqués souvent, hein. C'est aussi des engrenages où, au fond, ils croient toujours qu'ils vont récupérer quelque chose. Et donc, tant qu'ils sont dans cette logique-là, ils ne peuvent pas ils ne peuvent pas vraiment arrêter la machine. Et c'est pour ça que certains y laissent leur vie entière.
Et alors, si résumé, vous résumez ça d'une formule formidable qui résume un peu finalement ce que sont souvent les destins ou les vies. C'est un enchaînement de mauvaises réponses à un grand questionnaire.
Oui, tout en me demandant toujours qui peut bien avoir posé les questions.
Qui est le grand
Ah oui, c'est
questionneur?
ça, ouais, le grand questionneur. Ouais. Mais enfin, on a l'impression que quand on arrive au monde, c'est un peu ce qui nous arrive, quoi. on nous pose des questions, mais on ne sait pas trop qui nous les pose. Mais en tout cas, on a l'impression qu'il faut répondre.
La vie, oui, ce sont des rites de passage, des examens permanents.
Voilà. On doit répondre à des choses, et puis il y a des gens qui répondent bien et d'autres qui répondent moins bien.
Alors, il y a aussi une scène à un moment formidable qui a une charge symbolique très très forte, c'est celle de la grande roue. Entre les pages 127 et 130, ça je recommande à toutes celles et ceux qui nous écoutent vraiment d'aller lire avec délectation. Mais non, mais il faut lire le reste. Mais en particulier celle-là, c'est le fantasme de cette possibilité qui nous serait donnée de faire marche arrière dans nos vies.
C'est vrai que cette scène de grande roue, je crois que c'est, moi aussi, à la fois on pourrait dire elle ne sert à rien pour l'intrigue, et en même temps elle était absolument centrale très très vite dans l'écriture du livre, et justement peut-être parce qu'elle est comme un miroir simplement de tous les événements et du temps qui passe. Et puis c'est vrai qu'une grande roue, ça ressemble un peu à une horloge quand même. Donc l'idée qu'une grande roue puisse aller dans l'autre sens, enfin je raconte pas la scène, mais bon, ouais, je crois que j'aime beaucoup cette scène aussi. Ouais.
Cette grande roue, donc, dans des circonstances assez exceptionnelles, va offrir la possibilité à Martial, en quelque sorte,
de remonter le temps,
et de corriger une situation qui aurait pu tourner au tragique. Ouais. Mais je sais pas, c'est là aussi, j'insiste, je suis un peu obsédé par ça, mais comment elle s'impose une scène comme celle-là ? Vous avez été traumatisé, peut-être, je sais pas, enfant, par la grande roue ou...
Vous voulez que je vous dise vraiment ?
Vous êtes là pour ça ?
Ça m'est arrivé.
C'est pas vrai. Mais vous étiez le père ou le fils ?
J'étais le fils.
Incroyable.
Je sais pas si je le dirais souvent, ça. En tout cas, ça me fait bizarre de le dire, en fait.
Comme quoi, dans chaque roman, il y a toujours, si on va creuser, il y a toujours part d'autographie ou de souvenirs personnels.
Cette scène-là, je crois que ça fait longtemps que je sais qu'elle appartient à mon univers, certes à ma vie, mais à mon univers littéraire possible. Je ne l'avais jamais écrite, et dans ce livre-là, elle s'est imposée. Je crois que je suis content qu'elle soit imposée à ce moment-là, parce que je ne pouvais pas la donner à un meilleur personnage qu'à ce moment-là du livre, à Martial Germer. Ouais. Mais elle se finit bien dans le livre, elle s'est bien finie dans la vie aussi, je voulais vous rassurer.
Alors c'est la question que j'allais vous poser.
C'est aussi pour ça peut-être que je peux en parler comme ça un peu librement.
Nous voilà rassurés. C'est aussi évidemment, alors attention, on n'est pas dans le pamphlet, mais tout de même, c'est un roman politique avec deux aspects. Il y a tout d'abord celui du renoncement aux idéaux, vous l'avez dit vous-même, nous sommes dans les années 80-90, après l'arrivée de la gauche au pouvoir, une expérience dans laquelle cette gauche va perdre en grande partie son âme. Ça, c'est un thème que vous vouliez explorer.
Oui, je crois. Je pense que si je n'avais pas voulu qu'il y ait ça dans le livre, je n'aurais pas déposé, je n'aurais pas mis ces personnages, je n'aurais pas assumé comme des socialistes, puisque après tout, certes, c'est un niveau de village, mais le maire est socialiste, le personnage narrateur et a fait partie du conseil municipal, et il a une lucidité là-dessus, par contre, je crois.
Vous ne pouvez pas comprendre ça, j'ai dit au juge, mais je ne pouvais pas le dire, je ne pouvais pas avoir balancé toute ma prime de licenciement dans une affaire immobilière, pas un vieux socialiste comme moi, vous comprenez ?
Ouais.
Voilà la lucidité martiale.
Qui explique aussi d'ailleurs son impossibilité à sortir de cet engrenage, parce qu'en effet, il y a une honte. Il n'y a pas besoin d'être socialiste pour avoir honte de s'être fait avoir, mais si en plus... Il y a un renoncement à tous les idéaux en ayant choisi tout d'un coup la spéculation immobilière, etc. Ça ajoute à la culpabilité ou à la difficulté. Alors voilà, mais c'est vrai que là, moi, peut-être ce qui m'intéressait plus, c'était du point de vue du fils. Parce que c'est
le fils de Martial,
Erwan. Erwan, qui est quand même un élément important dans le livre, parce que c'est lui qui va... D'abord, c'est lui qui va se charger, on pourrait dire aussi, de la douleur de son père. Et puis, d'une certaine manière, c'est à cause ou grâce à lui, que les choses vont repartir dans l'autre sens. Et ce fils, il a...
Lui va être dans la réaction, justement.
Ouais, exactement, ce que ne fait pas son père. Et lui, il a, en gros, il a 18 ans à la fin des années 90. C'est-à-dire qu'il est vraiment l'héritier de cette fatigue, de cet effondrement, de ces renoncements. Je m'amuse à dire que j'appelle des renoncements socialistes, mais on voit bien que c'est tout l'héritage qui nous a été laissé. Sans doute, ce qui, moi, m'identifie beaucoup au fils, c'est que j'ai à peu près le même âge. Enfin, je suis un tout petit peu plus vieux, mais je veux dire, je suis comme beaucoup d'entre nous, aujourd'hui, ayant entre 40 et 50 ans, et dont nos parents ont abandonné des choses, c'est sûr. Après, tout est compliqué. Je ne suis pas là pour faire, encore une fois, une analyse politique du monde, mais là encore, je dirais que ça laisse ça laisse des traces affectives. C'est plus comment le politique peut devenir, voyez, une humeur, un grain de vie, une face, une couleur de vie, et que les années 90 ont une certaine couleur. Les années 80 en avaient une autre et les années 2000 en ont une autre.
Et alors ce sentiment de culpabilité que vous évoquiez chez Martial, il est encore plus lourd chez Le Goff, le maire, qui va se suicider. Et là on pense, on ne peut pas s'empêcher non plus au cas de Bérégovoy par exemple. Est-ce que c'est quelque chose que vous aviez en tête en
oui,
écrivant
j'ai pensé, j'ai souvenir d'avoir été très ému par le suicide de Bérégovoy, précisément parce que s'il y en a bien un qui sans doute, je crois que La suite lui a donné raison sur ce fait, était quelqu'un d'assez intègre et au fond qui n'avait simplement pas compris tous les codes et toute la violence du pouvoir. Alors là, bon, le maire de notre petite ville, c'est pas Bérégovoy, mais c'est quelqu'un qui lui aussi s'est fait embobiner et a embarqué toute la ville dans son affaire. Et justement, là aussi, en ayant renoncé peut-être à des idéaux... Oui, on peut dire de gauche.
Alors l'autre dimension politique du livre, mais tout ça je le répète, hein, c'est suggéré, c'est entre les lignes,
oui,
bien
c'est
sûr.
Pas un parti
ça n'est pas appuyé, pas. Mais c'est ce qui fait aussi la richesse, la densité du livre malgré tout. C'est cette grande question quand même, à savoir est-ce que la violence jusqu'au meurtre peut être une réponse légitime à une autre violence qui est celle ben voilà, des affairistes, du capital, de cette société néolibérale, autrement dit... On peut le résumer d'une manière encore plus simple. Est-ce qu'on peut tuer les salauds ?
Alors ça, c'est pas moi qui vous répondrai, mais parce que c'est un cas de conscience pour moi aussi, parce que comme beaucoup d'entre nous, j'ai des pulsions de haine ou de vengeance contre la méchanceté, contre la violence, justement financière ou quoi. Moi, ce que je sais, c'est qu'un roman, ça permet de faire ça. Et que... Donc voilà, moi, Oui, je me dédouane d'une certaine manière parce que c'est pas mon... J'ai vraiment pas de réponse à la question, mais je sais que dans le roman, on peut le faire et que c'est une forme de réparation comme une autre, certes symbolique. Mais je crois que, par exemple, si j'aime beaucoup le cinéma de Tarantino, c'est en partie pour ça. Même si ce livre, je crois pas, soit très proche de Tarantino.
Tarantinesque, non ?
Très tarantinesque. Mais par exemple, dans Inglourious Basterd, où il réussit quand même à faire tuer Hitler, dans un incendie de cinéma.
C'est vrai qu'on jubile.
Et voilà. Et bon, alors certes, la réparation est mince, mais c'est quand même le pouvoir de la fiction de faire ça.
Et puis bon, après, en effet, à chacun de se faire son intime conviction
oui.
pour répondre à cette question. Et voilà qui nous renvoie... à cet article du Code pénal. Mais on n'en dira pas plus. D'ailleurs, cet article, vous le connaissiez ou il est venu aussi
non,
au fur et à mesure de l'avancée du livre
Il est venu au moment où je me suis... Alors, je connaissais l'expression « intime conviction ».
Oui, et elle sûr, on la connaît
mais
tous.
Je la connaissais comme juridique, en fait. Oui. Et je savais qu'elle appartenait notamment au pouvoir du juge, mais sans savoir exactement ce qu'elle recouvrait et sans bien sûr connaître l'article correspondant à ce fait. Et à un moment, j'ai pensé à intituler le livre « L'intime conviction ». Et puis, je trouvais que c'était un titre un peu de... Ça faisait un peu mauvais film français. Intime conviction. Ou alors mauvais film américain d'ailleurs. Bon bref, donc je suis allé voir sur internet, voilà, tout bêtement. Et je suis tombé sur l'article 353 et il se trouve qu'il est très très beau dans sa formulation
oui.
aussi.
Il a presque une qualité littéraire.
Ah c'est incroyable. Alors je dois dire que bon, ça a orienté le fait de peut-être que le livre lui-même se noue autour encore plus de cette question-là. Et puis aussi vite c'est devenu aussi le titre. En hésitant, parce que je me suis dit un titre pareil... Est-ce que ça va passer auprès de mon éditeur déjà ? Est-ce que c'est un bon titre ? À vrai dire, je n'ai pas encore la réponse, mais moi, je trouve, je ne sais pas s'il faut dire amusant, mais suffisamment étrange pour me convenir. Voilà.
Mais alors vous, dans votre intime conviction, si vous étiez juge Martial, vous le mettez en examen ou...
Moi, je suis toujours très proche de mon personnage principal quand même, donc je crois que si j'étais juge, je crois que je suis quand même... Je suis un peu assez compliqué, hein, parce qu'en tant qu'écrivant le livre, je suis le personnage central, mais je suis quand même mon premier lecteur. Et en tant que lecteur, je suis le premier juge. Donc au fond, ouais, allez, je l'absous.
Ce sera le mot de la fin. Article 353 du Code pénal, Tanguy Vielle, publié aux éditions de Minuit. Merci.
Merci.